Paso doble.
Paso doble.
Mardi, expo.
Bonjour Michel Serre.
Bonjour.
C'est un plaisir de faire cette exposition consacrée à votre ami Hergé, en votre compagnie et ici au Grand Palais. Avant de revenir au livre de votre rencontre avec Hergé, d'ailleurs vous appelez ça mon ami de vieillesse parce que c'était déjà l'époque où il sortait les bijoux de la Castafiore. Hein.
C'est ça, nous nous sommes connus, il avait donc un âge respectable, mais moi aussi, c'est-à-dire on avait à peu près le même âge. Non, je crois qu'il avait quelques années de plus que moi, exactement. Et donc je l'ai connu au moment de la Castafiore, donc presque à la fin de sa production, si vous voulez. Mais on est resté amis pendant 25 ans. Moi j'ai commencé à le lire en 1937, j'avais 7 ans, vous voyez. Je le lisais juste avant la Seconde Guerre mondiale. Pendant que nous parlons, là, je suis certain que mes arrière-petits-enfants sont en train de le dévorer à belles dents. Donc la continuation est vraiment de façon stable depuis déjà quasi un siècle, vous voyez. Mais d'autre part, la continuation de l'exposition, c'est autre chose. C'est une sorte de consécration, pas de continuation. On dirait que la BD, là, est rentrée dans les beaux-arts, d'une certaine manière, puisque les expositions sont généralement consacrées à des peintres, à des sculpteurs, à des dessinateurs, etc., qui sont consacrés comme des beaux-arts. La BD était un peu encore considérée comme mineure. La voilà rentrée, effectivement, comme l'un des beaux-arts. Oui.
Alors, dans cette exposition, on voit le travail d'Hergé. Hein. C'est ça qui est très riche dans cette exposition. Comment lui vient une idée, quelles sont ses influences. Et puis, on peut suivre tout le travail d'Hergé, de l'ébauche d'un dessin au crayonné, après à l'ancrage, et puis la couleur, et comment il est revenu sur des albums déjà parus pour des rééditions, comment il travaillait aussi avec ses collaborateurs, avec le studio. On voit bien Hergé en train d'imaginer Tintin, de mettre en pratique ses idées, de corriger quand il faut. Tout ça est très présent dans cette exposition, Michel Serre.
Oui, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que la grandeur ou l'importance de l'œuvre finale est telle qu'on peut voir de près, ce que j'ai moi-même vu de près quand j'étais auprès de lui, que c'était un extraordinaire travailleur. Vous savez, un jour, j'étais avec sa femme et il disait « Ah oui, nous sommes sortis souvent cette année. » Ils étaient sortis deux fois, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils travaillaient comme un fou, ils travaillaient vraiment beaucoup. Et beaucoup de gens mettent à la moulinette psychologique ou psychanalytique ces dépressions, mais il était simplement épuisé de travail. D'ailleurs, il a dessiné un jour un joli portrait de lui-même, d'autoportrait, où il est assis à sa planche de dessin, ou à son bureau de travail, et au pied, il a des chaînes et un boulet, et des boulets comme un forçat. Il a travaillé vraiment comme un forçat. Et ce que montre l'exposition et que vous venez de dire, c'est l'intensité et la quantité de travail que cet homme a abattu.
Et puis pour Tintin, ouais, bon, je pense que c'est pour Tintin, il a décidé de... peut-être de faire une sorte de sacrifice, c'est-à-dire qu'il était attiré par l'art, il voulait faire de la peinture. Dans cette exposition au Grand Palais, il y a tout un volet où on voit des peintures d'Hergé, mais il ne pouvait pas faire les deux, disait-il, et c'est Tintin qui a pris le dessus.
Je pense effectivement qu'il s'est défoulé à la fin de sa vie, à l'époque où il s'est un peu retiré du travail dont je parlais tout à l'heure, et il s'est mis en effet à peindre sa passion, et il a peint un peu des toiles que nous voyons ici. D'ailleurs, l'exposition, vous ne l'avez pas dit, mais je le dis, est un peu une rétro-exposition. Elle part de la fin, justement, des tableaux dont vous parlez, où à la fin de sa vie, il a en effet fait des peintures, et elle remonte tout doucement vers le début, c'est-à-dire vers la source. C'est-à-dire, on a l'impression d'être un saumon qui remonte à la source du travail d'Hergé.
Michel Serre, vous disiez que on continue à lire Tintin, mes arrière-petits-enfants continuent à lire Tintin. Ça, c'est discutable. Est-ce qu'on peut toujours dire Tintin s'adresse aux 7 à 77 ans? Moi, de ma part, je ferai un décalage de 20 ans, je dirais. Oui. Parce que les 7 ans, je crois pas. Les 17 ans, j'ai pas vu beaucoup. Mais je dirais beaucoup plus les 27 à 97 ans.
C'est-à-dire, il est vrai que quand j'ai eu 77 ans, j'ai écrit à la veuve d'Hergé pour lui demander une dispense. Alors elle m'a envoyé une lettre avec une dispense officielle, et donc je suis maintenant tenu, je peux lire Tintin après 77 ans. Mais je l'ai fait, je crois, déjà avant 7 ans. Ah oui, je crois. Je crois que j'avais 5-6 ans au début que j'ai commencé à lire les albums en question.
Non mais je veux dire par là, Michel Serres, est-ce que cette consécration et franchement cette exposition est très bien faite, est-ce que c'est pas aussi le tombeau de Tintin? Est-ce que c'est pas aussi une manière de marquer la fin d'un héros qui a marqué le XXe siècle, qui a su raconter le XXe siècle?
Je crois qu'il n'a pas raconté le XXe siècle, mais sur le tombeau, je suis content que vous disiez le mot tombeau, parce que Ravel a écrit un admirable, peut-être son chef-d'œuvre, s'appelle « Le tombeau de Couperin ». Ça ne veut pas dire que Couperin est mort, ça veut dire au contraire que Couperin est bien vivant, ouais, c'est ça. Et par conséquent, si c'est le tombeau d'Hergé, en ce sens-là, je suis d'accord avec vous.
Mais Michel Serres, pourquoi vous dites qu'il n'a pas raconté le XXe siècle? Parce que tous les grands événements du XXe siècle, tous les troubles géopolitiques, même l'évolution des sociétés durant le XXe siècle, on peut le retrouver dans les aventures de Tintin.
Avec beaucoup de bonne volonté, on peut le faire en effet, parce qu'on est difficilement indépendant de son siècle, si vous voulez. Mais le tour du monde qu'il fait, etc. Oui, il y a quelque chose du XXe siècle qu'il a parfaitement suivi, en effet, vous avez raison, c'est la destinée des ethnologues. C'est-à-dire, les ethnologues sont allés, en effet, au musée des colonies et dans les colonies chercher leurs premières informations. D'ailleurs, d'une certaine manière, chez les racistes. Et puis, peu à peu, ces ethnologues-là ont décrit, et puis ensuite fait l'éloge des cultures différentes des nôtres, nous ont appris les cultures différentes des nôtres, et nous ont appris à les admirer. Et donc, sont devenus des antiracistes, nous ont appris ça. Eh bien, c'est un peu la même chose qu'a fait Hergé. Il est parti au Congo, d'ailleurs, pour commencer, et puis il a évolué, et tout d'un coup, on arrive au musée ethnographique, vous vous rappelez, et puis il devient l'ami de Chang, qui est chinois, puis l'ami de Zorino, qui est d'Afrique du Sud, et puis il admire en effet même l'abominable homme des neiges, vous voyez, et par conséquent, il nous apprend peu à peu à admirer, à aimer les choses qui ne sont pas de chez nous, vous voyez. Et donc là, c'est vraiment le XXe siècle qui est l'évolution même des sciences humaines. C'est pour ça qu'à un certain moment, je l'avais appelé dans mon livre, c'est mon ami là que vous lirez, je l'ai appelé le Jules Verne des sciences humaines. Vous voyez, Jules Verne étant aux sciences dures, disons, astronomie, etc., ce que Hergé est à l'ethnologie, à la découverte des autres cultures.
Mais il n'y a pas seulement l'ethnologie, il y a aussi les sciences, la science, avec bien sûr ces deux albums, Objectif Lune, On a marché sur la Lune, la guerre froide est très présente dans les aventures de Tintin, la course à l'armement, tout ça c'est présent, et puis surtout, et vous le dites très bien Michel Serres, avec les bijoux de la Castafiore, d'ailleurs vous consacrez un chapitre magnifique, parce que là, pour le coup, il est encore dans l'actualité, c'est-à-dire la société où la communication envahit tout.
Ça c'est vrai, c'est que les bijoux de la Castafiore sont une très très belle analyse de ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui les médias. Et en effet, il dit, il parle de la télévision évidemment,
et aussi de la presse people.
Et bien sûr, de la presse people, et il parle aussi, si vous voulez, du téléphone. Le téléphone, quand on veut téléphoner à la boucherie sans eau, on ne l'a jamais, vous avez remarqué. Et même quelquefois de l'escalier, on se casse la gueule à l'escalier. C'est-à-dire que tous les moyens de communication sont un peu bancals, sont un peu ratés, sont un peu comme ça. Et ce qui est normal, c'est-à-dire c'est ça. Mais ce que je trouve de plus profond dans cette affaire, c'est la... Vous vous rappelez du fétiche?
Bien sûr,
ce fétiche, on le cherche partout. On finit par le trouver, et quand on le trouve, on le lâche, il se casse. Vous vous rappelez? Et il fait voir qu'il y a dedans des bijoux, etc. Vous vous rappelez de ça? Très bien. Et puis, tout d'un coup, il reparaît sur son socle au musée ethnographique. Et vous vous rappelez de cette image extraordinaire, à quel point il est rafistolé, à quel point il est plein d'éclisses, plein de fils de fer, plein de vis, pour essayer de le faire marcher comme ça. Et ça, c'est un portrait magnifique. Et je le dis vraiment longuement dans Hergé, mon ami, c'est-à-dire que toutes nos entreprises sont ainsi. C'est-à-dire, elles marchent parce qu'elles ne marchent pas trop. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sait maintenant qu'un vrai système organique vivant est plutôt comme le fétiche rafistolé qu'un système parfait. C'est-à-dire que l'évolution a amené les yeux à tel endroit, le cerveau à tel endroit, les muscles à tel endroit. Mais enfin, bon, hein, ça marche. Et d'ailleurs, Jacob dit à un moment, notre cerveau ressemble à un ordinateur qui est sur une brouette. Exactement ça, vous voyez ? Exactement ça. Et par conséquent, cette image-là Alors, quand vous dites que ça ne marche pas, quand... Eh bien oui, ça ne marche pas. Eh bien voilà, c'est comme ça. La preuve que la vie, ça ne marche pas très bien, puisqu'on est malade, puisqu'on finit par mourir, etc. Le système n'est pas parfait. Mais c'est vrai pour la politique, c'est vrai pour les médias, c'est vrai pour tout. Tout est un peu rafistolé, un peu bricolé, voilà.
Sauf peut-être quelque chose, et là aussi, c'est présent aussi bien dans l'exposition Hergé, qui va durer jusqu'au 15 janvier, que dans votre livre, L'amitié chez Hergé. À partir du Lotus Bleu, à partir de cette première histoire d'amitié que va entretenir Tintin avec Chang, c'est aussi une vision du monde. Et vous, qui êtes philosophe, vous parlez d'altérité, du coup.
Bien sûr, c'est une vraie vision du monde, c'est-à-dire non seulement l'altérité a lieu parce que Chang est chinois ou parce que Zorino est d'Amérique du Sud, pas seulement ça, mais l'altérité va même jusqu'au Yeti. C'est-à-dire qu'au début, le gorille, c'est Ranko, dans l'île Noire, celui qui répand la terreur et celui qui fait peur comme King Kong, vous savez. Et tout d'un coup, par évolution, on s'aperçoit que ce gorille-là, ce Yeti, qu'on appelait l'abominable homme des neiges, est un homme charitable, est un homme qui reçoit les gens, qui est hospitalier, qui soigne le petit perdu dans la neige, etc. Et cet abominable homme des neiges, c'est le meilleur des hommes du monde. Vous voyez, le pire des hommes est bon. Vous vous rendez compte de la leçon de morale que c'est ?
C'est le moment de rappeler que les aventures de Tintin continuent sur France Culture avec la Comédie Française et l'Orchestre National de France, une collection de 5 aventures de Tintin signées avec Moulinsart. Et après les cigares du Pharaon, on pourra dès le 24 octobre écouter le Lotus Bleu en 5 épisodes quotidiens à 20h30 sur France Culture. Et on a appris quelques jours avant l'ouverture de cette exposition, Michel Serres, que Tintin au pays de Soviet, qui a été créé en 1929, va être colorié.
Ah, c'est possible. D'ailleurs, au début, l'œuvre d'Hergé n'était pas coloriée. Elle était, disons, blanc et noir. Et elle a été coloriée à un certain moment, en effet.
Par lui. Et sous son égide.
Sous son égide. Et d'ailleurs, Fanny, qui l'a épousée en second nom, c'était justement une coloriste. Elle existe d'ailleurs toujours, c'est une très bonne amie. Et elle était la coloriste du studio Hergé.
Vous êtes plutôt d'accord, parce que j'ai l'impression que c'est une aventure que Hergé n'aimait pas beaucoup. Hein. C'était vraiment Tintin au pays des Soviets. Ah, je pense que même que s'il voulait vraiment la remettre, la colorier, il l'aurait fait de son vivant.
Oui, mais là-dessus, il y a un très bon article d'Hélène Carrère-Dankos, qui est une grande spécialiste de la Russie, et qui dit qu'au fond, peut-être que Tintin au Soviet est beaucoup plus anticipateur qu'il ne paraît. C'est-à-dire que c'était comme ça, en effet, que fonctionnait. Et d'ailleurs, je suis moi-même témoin de ça. C'est-à-dire qu'un jour, visitant une usine en Chine, dans la Chine de Mao Tse-tung, n'est-ce pas ? Dans une usine qui avait été l'objet d'éloges de tous les maoïstes de France, par des gens que je ne citerai pas parce qu'ils sont encore très connus, vous voyez. Et je suis passé derrière le décor, tout était en carton. Exactement comme dans Tintin, au pays des Soviets.
Est-ce que vous lisez Tintin encore aujourd'hui, régulièrement, Michel Serres ?
Peut-être pas régulièrement, mais il m'arrive de prendre un album dans ma bibliothèque et de le lire. Vous savez, je vous le conseille, quand vous avez des moments de mélancolie, d'abattement ou de dépression, lisez un album, vous verrez. Au point de vue thérapeutique, c'est excellent. Je vous le donne comme ordonnance médicale.
Oh oui, mais merci. Alors moi, bien sûr, j'ai des albums préférés. Est-ce que vous-même, vous en avez...
Il y a des albums, si vous voulez, où le récit est peut-être plus prenant, comme dans le Trésor de la Camle Rouge, vous voyez. Mais d'autre part, comment dire, ils sont chacun assez profonds. Quand vous lisez le Racamble Rouge, par exemple, j'ai une amie philosophe qui m'a donné la clé. Elle fait de la pop philo, elle. C'est vraiment très intéressant. Elle dit, tu sais, voilà, ils cherchent le bonheur partout, loin, dans des îles un peu perdues. Et puis le bonheur, il est chez soi. Oui, ça c'est vraiment une leçon extraordinaire de ce livre-là, vous voyez. Ah, mais oui, et c'est, mais c'est pas de moi, c'est d'elle qui a trouvé ça. Et il y a comme ça des leçons un peu partout, comme dans Tintin au Tibet, de dire que le pire des hommes est bon. Quand même, c'est quand même une très très belle leçon de morale. Oui. De même, si vous voulez, dans L'oreille cassée, il y a des sorties sur l'ethnologie vraiment d'une profondeur extraordinaire, il n'y a pas de doute. Hein. De toute façon, je crois que presque tous les albums sont de véritables chefs-d'œuvre, vous voyez. Et par conséquent, chacun est d'une certaine manière unique en son genre, vous voyez. Et c'est à ça qu'on reconnaît vraiment une œuvre de génie. C'est-à-dire que chaque œuvre est, non pas indépendante, parce qu'on voit très bien la patte de l'auteur, mais elle est vraiment unique dans son genre.
Est-ce que depuis Tintin, vous avez continué à lire, à découvrir d'autres mondes, d'autres talents à travers la bande dessinée Michel Serres ?
Oui, j'ai regardé un peu, quand même, je me tiens un peu au courant de ça. Mais effectivement, il y a toujours chez moi une sorte de tendresse originaire pour, non seulement parce que j'ai lu Tintin quand j'étais jeune, mais d'autre part parce que j'ai été l'ami proche et assez affectueux de l'auteur, c'est assez rare. Alors du coup, je suis un peu comme ça sur cette réserve-là.
Enfin, dernière question, cette belle amitié, cette amitié de vieillesse, comme vous le dites, Michel Serres, elle reposait sur quoi ? Elle reposait sur le hasard ou sur votre analyse de l'œuvre d'Hergé ?
Oh, non, il n'y avait pas de motif intellectuel, parce que chaque fois que je l'écrivais sur lui, il me tapait sur l'épaule en me disant « Tu sais, je ne suis pas si intelligent que tu le crois ». Oui, et on prenait ça un peu avec du recul, vous voyez. Donc non, c'est du hasard, parce qu'il avait lu quelque chose que je lui avais consacré et il m'a téléphoné pour qu'on se voit. Et puis tout d'un coup, bon, parce que c'était lui, parce que c'était moi, comme dit Montaigne, vous voyez. Voilà, et on est restés ensemble. Mais il n'y avait pas chez nous ni de prétention intellectuelle, ni de prétention surtout sociale, non, pas du tout.
Hergé au Grand Palais jusqu'au 15 janvier. On peut retrouver à la page de Pasodable quelques images de cette exposition avec l'autorisation de Moulinsart, la société qui gère les droits très protégés d'Hergé. Et à l'occasion de cet événement, parce que c'en est un, on réédite les livres sur Tintin et Hergé, le vôtre bien sûr, Michel Serres, Hergé mon ami, revu et augmenté, celui de Benoît Peters, Hergé fils de Tintin bien entendu, et d'autres. Mais désormais, il faut compter avec un autre livre indispensable sur Hergé, le beau, le très beau catalogue de cette exposition. Si vous ne pouvez pas venir à Paris pour voir cette expo, arrangez-vous pour avoir le catalogue, c'est un très bel objet, riche en iconographie. Merci Michel Serres pour cette rencontre au Grand Palais.
Merci beaucoup.
Les petits matins, la suite avec Émilie Chaudet et François Angelier dans les studios de la Maison de la Radio. Bonne matinée, à demain.
Tintin n'est pas capable de vaincre sur ce terrain-là. Il peut triompher de méchants personnages et de toutes sortes de choses, mais pas de ce qui se passe maintenant. C'est trop grave pour que je puisse, moi, me substituer à Dieu, être le démiurge qui le fait triompher de choses aussi graves que celles-là. Contre la pollution, par exemple, des mers, par exemple. Contre la faim dans le monde, par exemple. C'est une œuvre, évidemment, je sais bien qu'il y a des collaborateurs, je l'ai dit tout à l'heure, et je leur rends hommage quand je peux, et c'est un travail à la fois d'équipe, mais je sais que tous les personnages, je sais que l'histoire elle-même, c'est, malgré tout, c'est moi, avec ce que je suis, enfin, simplement, comme ça. Personne, si quelqu'un d'autre le reprenait, il le ferait mieux, il le ferait moins bien, il le ferait en toute façon autrement, très différemment de moi, parce qu'il n'aurait pas les mêmes poumons que moi, le même cœur que moi, je dirais les mêmes tripes que moi.